Comment vous sentez-vous vis-à-vis de votre travail? Est-ce une source d'épanouissement et d'enthousiasme ou plutôt une cause de stress et de démotivation? Alors si vous vous reconnaissez plutôt dans la deuxième catégorie, si chaque semaine par exemple vous attendez avec impatience le week-end ou les prochaines vacances, alors je vous recommande vraiment chaudement le Parcours Chance. Vous le savez, un partenaire fidèle de Métamorphose. Parce que la vie est trop courte pour être gaspillée dans un travail qui ne vous convient plus. Chance, c'est bien plus qu'une simple plateforme, c'est une communauté d'entraide professionnelle déterminée à vous aider à retrouver votre place dans le monde du travail. La méthode de la communauté Chance est unique et éprouvée. En seulement 3 mois, vous pourrez redéfinir vos objectifs professionnels et retrouver ce qui vous passionne vraiment avec l'accompagnement d'un coach professionnel dédié. Si ce message trouve écho en vous, je vous invite à passer à l'action dès maintenant. Rendez-vous sur le site chance.co pour bénéficier d'un entretien gratuit avec un conseiller et changer ce qui ne va plus dans votre vie professionnelle. Bonjour les amis, c'est Anne Guéquière. Saviez-vous que seulement 29% des effectifs du numérique en France étaient des femmes? Ada Tech School, que j'ai le plaisir d'accueillir comme sponsor de cet épisode, s'est engagée à changer cette réalité. Inspirée par Ada Lovelace, qui est la pionnière de la programmation informatique, cette école féministe et inclusive offre une formation unique de 21 mois, dont 12 en alternance pour devenir développeur ou développeuse, sans prérequis techniques ni académiques. Alors si vous souhaitez vous reconvertir dans un secteur vraiment porteur, où votre contribution peut façonner l'avenir, Ada Tech School vous attend. L'école est à Paris, mais aussi à Lyon et à Nantes, et il y a 3 rentrées par an. Et la prochaine rentrée, les amis, est le 27 mai 2024. Il reste encore quelques places, alors pour candidater, rendez-vous vite dès maintenant sur le site adatechschool.fr. Bonjour et bienvenue dans la saison 2 de Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. Je suis Anne Guéquière, fondatrice du magazine Féminin Bio, auteure et éditrice de projets engagés pour un nouveau monde. Chaque lundi, dès 7h, nous partons ensemble à la découverte d'un sujet lumineux avec une personnalité qui porte une voix d'éveil des consciences.
Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience.
Aujourd'hui, je reçois une femme ailée, un être humain en expérience, comme elle aime à se décrire, une louve, une fée amérindienne et japonaise, magicienne et sorcière, multiface car multidimensionnelle. Elle coanime avec son époux, Franck Lobvet, des ateliers, plus particulièrement des cercles de femmes. Elle est aussi la créatrice de bijoux talismans qui ouvrent des portes vers notre animalité et notre divinité. Avec elle, aujourd'hui, nous allons parler des cercles de femmes, de féminin, de cyclicité, de sexualité. J'ai le plaisir d'accueillir Vanessa Poncelet. Alors cette première question, Vanessa Poncelet, comment tu travailles avec des groupes de femmes en fait aujourd'hui? Quel est l'objectif?
Mon premier objectif, c'est de reconnecter les femmes à leur ventre, à leur utérus, à leur sang menstruel, à leur cycle. C'est vraiment ce qui me tient le plus à cœur.
Et tu fais ça plutôt à travers un stage, plutôt des tentes rouges, dans quel cadre et dans quel contexte?
Pour le moment, ça s'est fait dans des stages que j'organise avec mon compagnon.
Et Franck Lobvet.
Franck Lobvet, ouais. Et puis j'en ai fait d'autres sans Franck. C'est des stages où on se réunit entre femmes en cercle et où je bouge de l'énergie. Je bouge l'énergie individuellement chez chacune, et puis du coup, ça fait bouger l'énergie dans le cercle
du groupe.
Du groupe, oui.
Aujourd'hui, quel est ton ressenti justement du féminin par rapport à l'état du monde?
Je trouve qu'il y a une montée du féminisme qui me fait un peu peur. Et du coup, je pense qu'on est en train de bifurquer vers un féminin plus doux, moins guerrier, moins... Oui, c'est ça, moins en guerre. J'aime bien ramener chez les femmes l'idée qu'elles sont des mamans, des filles, des amantes, et qu'il y a une espèce de... Enfin, c'est un peu mon avis à moi, mais j'ai plus l'impression qu'on est là pour soutenir les hommes que pour les écraser.
T'as l'impression qu'il y a un féminisme mal placé quelque part en ce moment?
Oui, oui. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de revendications qui sont hypocrites, selon mes critères à moi.
Sur quoi, par exemple? Sur quel sujet?
C'est Balance ton porc qui m'a le plus... ça m'a un peu donné envie de vomir, je dois avouer.
Ouais, c'était interpellé.
Ouais, ça m'a beaucoup interpellée. Bon, évidemment, il y a l'aspect génial qui est qu'enfin les femmes parlent. Et cet aspect-là, je ne le remets pas du tout en question et je trouve ça super. Après, je trouve que ça a été utilisé par certaines femmes et peut-être même par moi pour pointer du doigt les hommes comme si les hommes utilisaient leur pouvoir et puis qu'ils n'avaient plus le droit de l'utiliser parce que ça faisait du mal aux femmes et que nous, on n'utilisait pas le nôtre, alors que c'est ce que je pense qu'on fait le mieux.
D'utiliser notre pouvoir.
Ouais, je pense que la femme a plus de puissance que l'homme et qu'elle ne le sait pas.
Parce qu'elle donne la vie déjà ?
Parce qu'elle donne la vie. Oui.
Enfin, déjà, c'est beaucoup. Oui, je dis déjà puis, comme si c'était un petit truc.
C'est ça, énorme. C'est déjà le gros truc. Ouais, je pense que c'est vraiment énergétiquement. Hein, quand on voit une femme, en fait, pour moi, une femme peut avoir tout ce qu'elle veut. Il suffit qu'elle sache comment la voir. Alors qu'un homme, c'est pas aussi simple que ça. Mmh. Je dis souvent aux femmes dans mes groupes qu'avec quelques mots, je leur explique comment attraper n'importe quel homme et elles pourraient le faire si elles étaient OK avec l'idée. Ouais. Tandis qu'un homme, c'est pas vraiment pareil. Il va falloir qu'il...
Même s'il a le mode d'emploi, il peut pas
c'est
forcément.
Ça, c'est ça. Et puis le mode d'emploi n'existe pas forcément. Ouais. Voilà. Moi, j'ai toujours eu peur des autres femmes. J'ai jamais eu peur que mon homme... aller voir ailleurs et me trompe, mais j'ai toujours eu peur des autres femmes. Je sais à quel point elles peuvent arriver à leur fin.
Et tu t'entends bien avec les femmes quand tu dis que tu as peur des autres femmes, ça, je c'est dans quel sens en fait?
En fait, je me suis rendu compte quand j'ai fait mon premier cercle de femmes que je m'étais jamais retrouvée avec des femmes toute seule. J'ai toujours plutôt été entourée de garçons principalement. J'ai eu très très peu de copines. D'ailleurs, elles se comptent sur une main. Et du coup, les femmes m'avaient toujours intriguée, fait peur.
Voilà. Une sorte de méfiance.
C'est ça. Ouais, c'est de la méfiance. Ouais, je pense que c'est ça. Et du coup, quand je me suis retrouvée entre femmes, ça m'a vraiment fait bizarre.
Et maintenant, tu animes des.
Et maintenant, j'anime. Maintenant,
des groupes de femmes.
Ça.
T'adores
ouais,
ça.
Ouais. Ouais, maintenant,
mais ça a réconcilié aussi quelque chose en même temps en toi.
Ah, complètement. Ouais. Ça m'a réconciliée avec les femmes et du coup, ça m'a réconciliée avec ma propre féminité.
Qu'est-ce qui se passe dans ces groupes? Est-ce qu'il y a des rituels? Est-ce que c'est plutôt de la parole? Comment ça se déroule?
C'est principalement de la parole. Après, moi, je fais mon petit, ma petite popote secrète et énergétique. D'ailleurs, je dois avouer que je ne sais pas trop ce que je fais, mais apparemment, ça marche bien. Mais c'est beaucoup par la parole.
D'accord.
J'aime bien l'idée qu'elles aient un cadre intime et sacré, justement. Le sacré, je le mets à cet endroit-là.
Oui.
Pour qu'elles puissent... s'exprimer.
Est-ce qu'on pourrait, ça pourrait ressembler un peu à ce qui se passe dans des tentes rouges, par exemple?
Ouais, je pense.
C'est assez proche.
Ouais, bien sûr.
Ouais.
Ouais.
En général, ce sont des cercles de combien? Tu parles de cercles intimes. C'est quoi, une dizaine de femmes?
Oh, quand je suis en stage avec Franck, on est plutôt sur 25-30 femmes.
Oui, d'accord.
Ouais. C'est ça.
En quoi le groupe est important? Je sais que Franck, c'est quelque chose dont il parle aussi, en disant que c'est plus dur, effectivement, mais en même temps plus efficace quand on est en groupe, parce qu'on a le reflet du miroir social du groupe. Toi, c'est ce que tu ressens aussi avec les femmes?
Complètement, oui. Je trouve que j'ai fait de l'individuel aussi, et je trouve que dans l'individuel, on peut encore se cacher. Je trouve que le groupe est fort dans le sens où il représente la société. Et comme c'est la société qui nous fait plus peur que l'individu, le fait de se retrouver en groupe est plus puissant.
Pourquoi on continue à avoir ce, et pourtant on est au 21e siècle, à avoir ce tabou du sang, des règles, et qui est pourtant notre puissance, parce qu'elle a été écrasée pendant des siècles?
Je pense que ça a été tellement tabou, tellement écrasé, que maintenant ça a du mal à sortir. Ça sort tout doucement, mais c'est encore vraiment, vraiment tout doucement. Quand je vois parfois les pubs à la télévision, j'hallucine encore de voir qu'on nous vend des serviettes pour pouvoir jouer notre match de tennis.
Ouais, c'est...
Sans se poser de questions.
Ouais, c'est ça.
Donc voilà, ça avance, mais doucement.
Comment tu abordes, toi, ces sujets-là avec les femmes ?
Moi, j'aborde ça de façon très simple. J'ai une facilité à aller dans mon intimité qui est un peu déconcertante pour certaines, et du coup, j'y vais assez de façon assez brute.
Oui. Alors moi, j'ai ça, mais c'est venu plus tardivement, c'est venu peut-être ces 15 dernières années. Je pense que dans les conditionnements dans lesquels j'ai été élevée, c'est pas que c'était spécialement dur d'en parler, c'est juste qu'en fait, on n'en parlait pas, c'était pas un sujet. Mmh. Et je me rends compte que ça choque, en fait, quand j'en parle naturellement, même à des hommes, dans la vie tous les jours. Par exemple, mon partenaire de running, l'autre jour, je lui dis « Bah non, demain, je vais pas venir parce que je vais avoir mes règles, mes lunes. » Il me dit « Bah t'as pas besoin de me le dire. » Bah, je dis « Si, moi j'ai besoin de le dire, je le dis. Mmh. » C'est aussi bête que ça, en fait. On en est presque là, ouais. C'est fou.
Ouais. Il y en a, ils veulent même pas savoir que ça existe. Je sais pas. Moi, comme j'ai un rapport avec mon sang qui est très proche là, et que c'est important pour moi, j'arrive pas vraiment à comprendre comment on ne s'y intéresse pas. Après, voilà, je m'y suis pas intéressée pendant une bonne dizaine d'années, hein, donc voilà, je peux comprendre. Mais ça m'a tellement apporté, quoi. Ah, ça m'a tellement dit qui j'étais, finalement, que...
Quelle relation tu as avec le sang, justement, aujourd'hui ?
Pour te l'illustrer, la première fois que je suis rentrée en rapport avec mon sang et que je l'ai goûté, j'ai eu envie de vomir. D'ailleurs, l'odeur est très forte, toutes les femmes le savent. Et au bout de quelques mois, je m'étais dit, tous les mois, je vais un petit peu goûter. Je vais lui dire que je suis ok, tu vois, il y avait un espèce de dialogue avec mon sang. Et au bout de quelques mois, quand j'ai goûté, j'ai eu l'impression d'avoir un sirop de fruits rouges dans la bouche.
Mmh, ça s'était transformé.
Ouais, et ça m'a vraiment fait bizarre ce moment-là. Je me suis vraiment dit, mais ma perception est complètement en train de changer.
C'est important de goûter notre sang, notre propre sang. Je parle du sang, on parle du sang des règles, hein, on est d'accord.
Ouais,
hein.
Tout à fait, ouais. Bah, pour moi, ça l'a été.
Oui.
Parce que j'étais tellement dégoûtée que j'avais envie de... Bon, moi, je suis un peu extrême dans mes choix et dans mes comportements. Mais j'étais tellement dégoûtée que j'avais envie de contrebalancer en y allant directement. Mmh. Et puis, je savais que ça avait des bienfaits vraiment hallucinants au niveau de la santé et tout ça. Donc, voilà, je me suis dit pourquoi pas. Après, on peut mettre une simple goutte dans un verre d'eau et l'information passe de la même façon.
Oui.
Moi, j'y suis allée carrément avec ma cup.
Cash. Oui, on peut y aller en mode homéopathique,
c'est
voilà,
ça.
Informationnel.
Ouais, complètement. Une goutte
c'est okay.
dans un verre d'eau suffit.
Qu'est-ce que ça peut apporter de faire ça ? Qu'est-ce qui passe comme info ?
Pour moi, ça a informé mon corps que j'étais ok avec l'idée de récupérer mon sang. Je l'ai vraiment fait dans cette perspective-là. Je me suis dit, voilà, je suis ok. J'ai envie qu'on se rencontre, j'ai envie qu'on se connaisse, j'ai envie d'aimer avoir mes lunes tous les mois. En fait, c'était ça. Parce que c'était plus chiant qu'autre chose. C'était même pas, je m'en fous, ça me faisait vraiment chier, quoi.
Et maintenant?
Ensuite, il faut que je me détende.
Ouais, c'est ça.
Et maintenant, bah, là, ça fait un an que je l'ai plus eu, que j'ai mais ça me manque à fond. Ça manque à mes plantes.
Oui.
Et ça me manque à moi beaucoup. Ça me manque d'ailleurs, c'est quand je vais faire les magasins, je veux tout le temps acheter du rouge et du coup je dis à Franck, mais en fait c'est juste mon sang qui me manque.
Oui, bah oui, c'est vrai que l'allaitement maternel est un super contraceptif, donc
ouais.
Voilà.
C'est ça.
Du coup, tu animes plus de cercles pour le moment ou tu vas recommencer ?
Je vais recommencer. En fait, je suis surtout en train d'écrire un bouquin là.
Ah oui ?
Ouais. Je voudrais que les jeunes filles aient l'information.
Et sur quel thème en particulier ?
Sur le sang menstruel, principalement.
D'accord. Et donc sur l'énergie aussi qu'on porte par rapport à ça ?
Ouais.
Nos différents cycles ?
Les cycles, ouais, c'est ça. Ouais,
Peux nous les décrire un petit peu ?
Alors, oui. Après, il y a des super bouquins qui ont été faits là-dessus.
Oui.
Moi, je parle principalement de la période pendant laquelle on saigne, parce que pour moi, c'est la plus importante. C'est une période pendant laquelle on est hypersensible, hyper fragilisé.
Moi, je rougis beaucoup, par exemple.
Oui, bah, c'est ça. On est très susceptible aussi.
Émotif.
Ouais, c'est ça. Tout ce qu'on nous dit paraît être une montagne. Donc pour moi, c'est dès qu'elle a accepté cette période-là, elle est hyper importante parce que du coup, on accepte d'être vulnérable et fragile. Et une femme qui n'accepte pas ce côté-là d'elle ne sera jamais forte, selon mon avis. Du coup, j'ai l'impression que c'est une porte ouverte pour chacune, pour vider nos émotions, vider le sac de tout le moi. Voilà. Il y a.
Qu'est-ce qu'on peut conseiller de faire pendant cette période ou de ne pas faire? Est-ce que toi, en tout cas, toi, est-ce
moi,
qu'il y a
des
choses?
Moi, je conseille aux femmes de se poser, de rien faire, de rester au lit si elles ont envie de rester au lit, de. Le corps à ce moment-là, je sais pas si t'as remarqué, mais le corps est vachement plus lent, plus gracieux. On se sent à la fois lourde et légère. Mmh. Et du coup, pour moi, c'est vraiment une période où j'ai envie de rien faire. D'ailleurs, j'ai envie de rien.
Ouais, d'être dans ta grotte, quoi.
C'est ça. Là, j'ai une fille qui va bientôt les avoir et qui commence déjà à ressentir les effets. Et le principal effet, c'est ça. C'est j'ai envie de rien. Je lui dis, alors, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Elle est un peu déprimée, du coup, à ces moments-là. Et elle me dit, mais j'ai envie de rien, rien du tout. Donc, c'est marrant parce qu'avec elle, je redécouvre vraiment ce que c'est quand...
Les débuts, quoi.
Oui, c'est ça, quand c'est dépourvu de toute imagination et de tout ce qu'on nous dit. Mais je crois que c'est vraiment ça. On a envie de rien. Il faut pas trop qu'on nous parle parce que tout ce qu'on nous dit est vite interprétable. Donc... voilà.
Pour donc moi, c'est bien d'informer le monde autour, l'entourage.
Ouais, c'est ça, c'est pour ça que c'est hyper important que les hommes soient au courant de ce que c'est. Mm. D'ailleurs, ils disent très facilement que les femmes qui ont leurs règles sont chiantes, hein. C'est bien connu.
C'est clair.
Donc non, c'est pas qu'on est chiante, c'est qu'on a simplement nos lunes et que c'est un moment où on est fragilisé, vulnérable.
J'ai organisé il y a 2 ans, co-organisé le Parlement du féminin à Paris où on parlait de tout un tas de sujets un peu en transversal sur à la fois de la spiritualité, à la fois du féminin dans l'entreprise pour justement décloisonner tous ces féminins qui souvent en fait sont en silo et ne se parlent pas ensemble. Tu vois justement mettre des féministes avec des femmes sacrées qui méditent, c'est assez intéressant de voir presque des chocs de culture en fait entre ces femmes. Et on avait bien sûr invité aussi des hommes. Et il y avait le patron de Century 21, donc qui est un grand groupe dans l'immobilier. Et je lui ai posé cette question qui était, est-ce que c'est important, ça pourrait être intéressant d'avoir un congé menstruel, en fait, dans l'entreprise, d'intégrer ça.
Ouais, il y a des femmes qui parlent de ça.
Qu'est-ce que tu en penses, toi?
Ah, je trouverais ça génial.
Ouais.
Ah bah ouais, bah là, ce serait reconnu. Et puis, je pense que les femmes ont besoin de cette reconnaissance-là. Parce que du coup, ce serait plus tabou, ce serait plus une faiblesse. C'est vu comme une faiblesse maintenant, quand même. Hein.
Ouais.
C'est comme d'avoir un enfant, quoi. Une femme qui n'a pas d'enfant, qui peut encore avoir un enfant, va être moins engageable que peut-être une femme qui a déjà eu sa vie de maman.
Et c'est ça.
Qui peut passer à sa vie de carrière. Enfin, tu vois, c'est marrant quand tu me parles de cloisonnement. Ça me fait toujours bizarre d'entendre ça parce que moi, les cycles et le sang permettent justement de mettre tout ça ensemble. J'arrive à mettre la féministe avec la méditatrice ensemble dans la même femme. Parce qu'en fait, je pense qu'il y a certains moments sur le moi où on est revendicatrice et d'autres moments où on a plutôt envie de se poser et de méditer. Mais ça, c'est le féminin qui est comme ça.
C'est ça.
C'est pas les femmes.
Tout à fait. C'est le féminin qui est comme ça, mais ce que je voulais dire, c'est que dans les organisations, souvent, elles se cloisonnent, elles ne se parlent pas. C'est pour ça que ça m'intéressait de mettre ensemble ces féminins qui ne se parlent pas et qui pourtant, on est toutes rassemblées, comme tu le dis.
Ouais.
C'était ça, justement, de dire, ben, en fait, on est juste toutes pareilles, quoi.
Ouais,
quels que soient nos,
c'est ça. Et
nos silos, quoi.
D'où l'importance du groupe.
Ouais.
Tu sais, tu me demandais tout à l'heure. Ouais. Je trouve que dans les groupes, les femmes voient qu'en fait, on a exactement les mêmes sujets. Toutes les femmes sont pareilles. Et qu'on ait une ariégeoise complètement hippie dans la pièce et une autre bourgeoise, alors qu'elles n'ont pas du tout la même vie, elles se rendent compte qu'elles sont pareilles.
Ouais.
Qu'elles ont les mêmes sujets de préoccupation.
Et ça, c'est merveilleux c'est ça quelque part aussi.
Ah bah oui, c'est clair. Du coup, on abandonne l'identité. Tu sais, il y a plus d'identité. Je suis une femme et qu'est-ce que c'est que d'être une femme? Tu sais, finalement, ça reste un questionnement parce qu'on ne sait pas vraiment ce que c'est que d'être une femme.
Tu pourrais le définir, toi, aujourd'hui? Avec ton expérience?
Alors, comment je le définis aujourd'hui? Je dirais que une femme écoutera d'abord son ventre avant d'écouter sa tête. Je me suis souvent considérée comme inférieure aux hommes parce que je me croyais pas intelligente. Alors qu'on m'a toujours dit, t'es très intelligente, enfin, j'étais très bonne à l'école et tout ça. Donc, c'est un peu bizarre, hein, comment on est faite, quoi.
Et, une sorte de complexe d'imposteur, quoi.
Ouais, c'est ça. Mm. C'est ça. Et du coup, je croyais qu'il fallait que je sois égale à l'homme, qu'il fallait que je fasse preuve d'intelligence, qu'il fallait que je fasse preuve de pouvoir couper du bois, de grimper aux arbres. Et du coup, tu sais, il y avait une espèce de course à montrer aux garçons que je pouvais être aussi forte qu'eux, aussi intelligente qu'eux. Mm. Je te passe tous les détails.
Je vois très bien.
Tu veux savoir. et je me suis rendu compte que l'intelligence de mon instinct, de ma spontanéité, était beaucoup plus puissante que de mes neurones, que de ma
même tête, si elle fonctionnait très bien.
Oui, c'est ça. Et du coup, j'ai laissé tomber cet aspect-là. Et mais tout ça, je l'ai vraiment fait sans le faire exprès. Hein. C'est après, tu sais, quand tu te retournes et tu te dis, mais en fait, je suis passée par là, et puis finalement, c'est comme ça que j'en suis arrivée là. Et il y a une fois dans ma vie qui est très très claire pour moi où j'ai écouté mon ventre. Et cette fois-là fait que je vis ce que je vis aujourd'hui, clairement. Ma vie de couple, ma vie...
Elle a basculé, il y a eu une bascule à ce moment-là.
Ouais, exactement. Ouais.
Qu'est-ce que tu faisais avant dans ta vie professionnelle ou qu'est-ce que tu fais en parallèle de ça ?
J'ai jamais beaucoup travaillé, moi, en vie professionnelle. C'est pas trop mon truc. J'ai fait des bijoux, moi, depuis que j'ai 12 ans. Je fabrique avec mes mains.
Ouais, tu fais des très jolis bijoux qui s'appellent des talismans, c'est ça ?
Ouais, c'est ça. Mmh. C'est ça. Puis je suis passée après par... la spiritualité, le reiki, les massages, les trucs.
Oui.
Voilà.
Mais c'est chouette parce que ça, tu peux aussi aujourd'hui, finalement, quelque part, t'en servir dans tes groupes.
Ah, complètement. Ouais, ouais.
Bien sûr, c'est ce qui te constitue aujourd'hui.
Ouais. Ah, ouais, je travaille de façon... C'est marrant parce que quand on nous regarde travailler avec Franck et on travaille de la même façon, on croit qu'on fait que parler. Hum. Mais en fait, le travail énergétique est tellement subtil, tellement invisible. Et nous, on finit maintenant par le voir et par le sentir. Que voilà, moi, je trouve ça vachement plus intéressant.
Oui.
Et c'est d'autant plus puissant que je ne sais pas comment ça marche.
Ça te traverse ?
Non, ça me traverse pas. C'est... Comme je le disais tout à l'heure, je fais des choses spontanées et instinctives que je ne sais pas que je fais. Et c'est après, c'est le retour que j'ai, où on me dit, j'ai plus mes règles depuis 24 ans. Et deux jours après le stage, j'ai de nouveau mes règles. Tu vois, ce genre de truc.
Ça me fait des frissons.
Même moi, je comprends pas.
Ouais, qu'est-ce qui s'est joué?
C'est ça. Tu vois, donc je peux pas dire que je fais quelque chose en particulier. Je crois que j'y prends du plaisir.
Oui. Qu'est-ce que dans ces groupes, qu'est-ce qui ressort? Quelles sont les problématiques en fait que les femmes apportent le plus souvent et qui reviennent et qui permettent aussi de se dénouer quelque part à travers le groupe? Qu'est-ce qui se pose?
Le truc principal c'est la sexualité. Hein. Les femmes n'osent pas être les salopes qu'elles sont.
Ouais. Et là, j'entends Franck en même temps.
Ouais, c'est vraiment ça. Oui. C'est incroyable dans la plupart des stages, c'est ça. C'est les femmes ont envie de faire l'amour sans savoir qu'elles ont envie de faire l'amour. Mmh.
Elles se réfrènent.
Ouais, complètement. Elles croient même que c'est plus sage de ne pas faire l'amour que de faire l'amour. Ça a été beaucoup dans l'air, hein, cette histoire-là de
oui. Peur de la jouissance, peur du corps.
Ouais, non, juste peur de prendre son pied de façon sexuellement. Tu sais, comme s'il y avait une sexualité de nouveau, on rentre dans un truc où il y a une sexualité sacrée, puis il y a une sexualité sale, pornographique, alors que la sexualité en elle-même est sacrée. Donc on parle souvent du fait que peu importe la façon dont on fait l'amour, c'est faire l'amour et c'est prendre son pied. Et encore par rapport au cycle et aux lunes, il y a des moments sur le mois où on a envie de faire l'amour comme une chienne et puis d'autres moments où on a envie de faire l'amour comme une princesse. Mmh. Et voilà, ça dépend, c'est hormonal, c'est vraiment physique, quoi. C'est ça qui est dingue. C'est que nous, on croit qu'on peut contrôler tout ça. Mmh. On croit que c'est des envies, mais en fait, non, c'est pas des envies, c'est des pulsions. Mmh. Donc si on ne règle pas les pulsions, si on se rend pas compte que nous aussi, on a des pulsions, tels que les hommes qui vont se branler sur Internet, hein, parce que tous les hommes le font.
Oui.
Je pense que toutes les femmes le savent. Tous les hommes le font, mais moi, je crois que toutes les femmes le font aussi, ou devraient le faire, parce qu'on fonctionne pareil à ce niveau-là.
Et ce côté pulsionnel, justement, non accueilli, qu'est-ce que ça donne? ça donne des frustrations monstres.
Des frustrations, de la boulimie, de la compensation. On compense, on mange, on mange, on mange. Ou on déprime.
Et en même temps, tout le monde
pied, on s'ennuie. Je sais pas. En tout cas, pour moi, la sexualité, ça doit être l'activité principale de jouissance sur la planète.
J'ai une amie qui est masseuse tantrique, qui rencontre aussi beaucoup de femmes qui semblent un peu désespérées parce qu'elles n'ont pas de compagnon. Et donc, elles vivent leur sexualité juste à travers la masturbation et c'est insuffisant, en fait. Mmh. Et donc, est-ce que toi, tu vois aussi cette typologie de personnes dans tes stages
Il y en a. Après, moi, je crois que je dois avoir deux extrêmes. J'ai les femmes qui n'ont plus rien, même ne se masturbent plus. Du coup, elles, je les renvoie à d'abord recommencer à se masturber. Mmh. Souvent, c'est des femmes plus âgées qui ont vraiment laissé tomber cet aspect-là dans leur vie.
Mais qui leur manquent. Oui.
Elles s'en rendent pas forcément compte. Mmh. Après, quand on le rend pas, elles prennent conscience que ça leur manque. Mais elles croient que c'est plus pour elles. Tu sais, elles ont déjà.
Genre, j'ai passé l'âge,
Elles ont déjà abdiqué.
Ouais. Je suis plus sur le marché du sexe, oui, comme dirait ça. Franck,
C'est ça. Elles ont abdiqué, de leur pouvoir, de leurs envies. Et puis après, il y a les autres femmes, c'est celles qui, vont se salir. Sans s'en rendre compte dans leur sexualité. C'est-à-dire qu'elles vont avoir une sexualité qu'elles n'ont pas forcément envie dans le fond et qu'elles croient qu'elles ont envie. Tu vois ce que je veux dire? Du coup, elles se marchent dessus.
D'accord.
Elles croient être des femmes ouvertes qui vont faire l'amour et libres d'une certaine façon. Et puis, quand tu creuses un peu avec elles sont pas vraiment contentes d'elles.
Ça pourrait être une sorte de consommation presque effrénée, oui, ou ça revient de la boulimie sexuelle.
En fait, elles sont en train de se marcher dessus, de marcher sur leur système pour oser transgresser l'interdit de la sexualité. Tu vois ce que je veux dire?
Oui, tout à fait.
Et du coup, ça donne un truc qui n'est pas encore elles, qui n'est pas encore vraiment ajusté avec ce qu'elles elles aiment finalement. Je pense qu'il y a beaucoup de femmes qui ne se sont même jamais vraiment posé la question. On apprend à faire l'amour sur internet maintenant, tu vois. Il y a même beaucoup de femmes, quand je me branche, elles se barrent, c'est-à-dire qu'elles sont même plus dans leur corps quand elles font l'amour.
Il y a une sorte d'échappatoire.
Complètement. Elles se rendent même pas compte, quoi. Elles sont dans leur tête. Elles sont presque en train de penser à demain ou après-demain. Ou elles sont complètement éthérées dans je ne sais quel univers, mais elles font pas vraiment l'amour, quoi.
Qu'est-ce qu'on peut transmettre justement à nos filles dans ce domaine-là? Moi, j'ai trois filles. Toi, tu disais que tu avais ta fille qui allait avoir ses règles, qui venait d'avoir.
Il y en a tellement des choses à transmettre.
Sur l'aspect de la sexualité, en tout cas, tu vois, quel message on pourrait donner justement aux jeunes filles?
Moi, je leur dirais de jamais avoir honte de leur corps, de leur vagin, de leur désir, de prendre du plaisir. Moi, j'ai pris du plaisir très jeune, mais vraiment très très jeune. Et je me souviens que pour moi, c'était normal. Tu vois, je prenais même du plaisir avec mes copines, quoi. Je devais avoir 6-7 ans. On se caressait. Pour nous, c'était pas du tout interdit.
Oui, l'homosexualité est fréquente chez les jeunes
filles, même chez les jeunes garçons, d'ailleurs. Ouais. Et puis, il y a un moment où ça bascule, on te dit, mais non, on peut pas, c'est sale, ça se fait pas. Et du coup, tu sais plus trop. Voilà. Donc, moi, je leur enseigne qu'en fait, c'est tout à fait normal. D'ailleurs, c'est marrant parce que les enfants, quand tu leur parles de faire l'amour, quand tu leur dis, comment on fait les bébés, ça passe par là. Et tout de suite, c'est berk. Le premier truc.
C'est fou. Hein.
C'est dégoûtant.
Moi, je suis toujours choquée de cela. Je me souviens d'avoir accompagné un groupe d'enfants dans un musée. Et donc, il y avait une très belle toile d'amour, de gens qui faisaient l'amour. Mais alors, c'était vraiment très prude. Et alors, ils passaient tous devant. Ils disaient, c'est dégueulasse et tout. Et je voyais
cette
c'est
déjà enregistré.
Voilà.
Ils enregistrent hyper vite. Que c'est sale. Puis il faut dire qu'on en a des années de judéo-chrétiens là dans le sang. Tu vois, donc
ça marque.
Ça revient petit à petit.
Et la sexualité.
L'idée, c'est d'en prendre conscience.
Oui.
C'est ce qu'on fait dans les cercles. C'est là que je trouve. C'est en ça que je rends sacré la féminité. C'est quand on prend conscience de choses par rapport à notre féminité. Tu sais, j'ai l'impression que ce qui est sacré, c'est que c'est dès qu'on porte attention à, on le rend sacré. Donc dès qu'on porte attention à notre féminité, on la rend sacrée.
C'est juste.
J'aime bien cet aspect-là, ouais, de la sacralité, de la féminité.
La sexualité, qu'est-ce que ça peut donner dans le temps quand on est avec un conjoint depuis très longtemps? Est-ce que c'est ça que tu vois aussi en groupe? Alors, on parlait des femmes seules, on parlait là des jeunes femmes. Et le couple dans la durée, la sexualité, c'est pas toujours évident non plus quand on est avec quelqu'un depuis 15, 20, 30, 40, 50 ans pour les personnes, ouais, même seniors.
Ouais. Bah, moi, de mon point de vue, je trouve ça plus facile parce qu'on se connaît, parce que on devrait pouvoir tout se dire. Après, on rentre sur un autre sujet, c'est sur le sujet de la transparence dans les couples et est-ce qu'on se dit tout ou pas. Mais moi, je préfère faire l'amour avec un homme pendant 50 ans que avec 50 000 hommes différents. C'est plus, pour moi, c'est plus facile. Je connais sa peau, je le connais lui, on peut en discuter, on peut parler de tout. Et c'est d'ailleurs, c'est la base de mon couple, c'est on peut parler de tout. Si je peux pas parler de tout avec mon homme, je sais pas ce que je fous avec lui.
Oui. Ouais.
Ça dépasse le domaine de la sexualité.
Bien sûr, mais c'est
et
c'est
dans
très
la
lié.
Sexualité, c'est hyper important, ouais, de pouvoir tout se dire. Parce que c'est un terrain tellement inexploré, on sait pas quoi.
Et en même temps, est-ce qu'au bout de 30 ou 40 ans, ton homme te fait toujours grimper au cocotier? Alors ça, c'est pas le cas, vous êtes pas ensemble depuis ce temps-là.
Si c'est pas le cas, au moins on en parle.
Oui.
Et du coup, d'en parler va nous emmener à aller dans d'autres directions peut-être, de découvrir d'autres plaisirs, d'autres choses, peut-être même d'aller voir ailleurs, je sais pas, mais au moins on peut en parler.
La parole toujours.
Ah bah c'est clair quoi.
C'est très important.
Si t'as 50, 60 ans, puis que t'as plus de compagnon et que tu dois en chercher un, ça va déjà être plus difficile comme approche que quand tu le connais depuis ses 50 ans et que normalement tu peux en parler quoi.
Ouais, c'est clair.
Après, si l'idée c'est pas de remettre en cause le couple, c'est mal barré parce que ça remet évidemment toujours en cause. Mais c'est ça qui est génial.
Ouais.
C'est que c'est toujours remis en cause et puis c'est ce qui rend la vie de couple intense finalement.
Oui, on est sur le grand terrain de jeu de la vie.
Ah bah oui, c'est ça. Puis si on peut le faire à deux, moi je trouve ça encore mieux.
Oui.
Après, c'est pas mieux d'être en couple, hein, attention.
Non, c'est pas ce que tu dis, hein. On n'entend pas quand tu dis ça.
Cool.
Écoute, Vanessa Poncelet, merci infiniment pour cet entretien. On arrive à la fin de ce podcast.
Bah avec plaisir.
On a hâte de lire quand il sortira ton livre.
Ouais, j'ai hâte de le terminer.
Ouais. Mais avec un bébé, là, il faut prendre son temps aussi
un petit
peu.
Ça, ouais.
Et puis, on se donne rendez-vous à bientôt, alors.
Ouais.
Bye.
Merci.
Merci.
Merci de nous avoir écoutés. Découvrez en avant-première la personnalité de la semaine sur le compte Instagram Métamorphose Podcast. Si vous aimez ce podcast, favorisez sa diffusion en lui donnant 5 étoiles sur Apple Podcasts ou sur votre plateforme de podcast préférée. Et surtout, abonnez-vous pour suivre tous les épisodes gratuitement. Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. Anne Guéquière est ravie de vous faire découvrir son tout nouveau livre « Va, vis et deviens conscient de toi-même » aux éditions Erol. Embarquez avec elle sur les sentiers de sa propre quête afin de partir à la rencontre de vous-même et vivre votre métamorphose. Anne vous éclaire à chaque page car elle partage avec vous le fruit précieux de son expérience, de ses outils thérapeutiques ainsi que les rituels et symboles qui l'accompagnent. Suivez-la dans ce merveilleux voyage introspectif. Laissez-vous embarquer par ce livre sublimé par les illustrations d'Izumi Idoya pour visiter vos propres chemins de métamorphose. Va, vis et deviens conscient de toi-même est paru aux éditions Erol et est disponible dès maintenant chez votre libraire préféré ou en ligne.